musique et actualités locales, Radio Écho des Choucas, 103.7.
Il revient tout juste de cette nouvelle aventure hein, du Dakar. Il est présent, il est juste en face de moi. Il s'agit de Charlie Herbst. Bonjour Charlie.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Eh bien ça va. Fraîchement rentré.
Et oui, fraîchement rentré. Là, tu es rentré quand exactement en France ?
Je suis rentré dimanche de la semaine dernière.
Ouais.
Et voilà, on a tout de suite repris le rythme. Hein.
Et oui, justement, c'est un rythme particulier parce que pendant 2 semaines de compétition, voilà, il a fallu se lever tôt. Il y a eu des efforts tout au long de la journée incroyables. Comment se passe le retour, on va dire, à un rythme un peu plus calme ?
Ouais, on est parti 20 jours hein, de la maison. Donc, on a eu 12 jours de course. On rentre, on se réacclimate, voilà, faut reprendre les petites habitudes. Il a fallu se réhabituer un petit peu au froid, parce qu'on s'y était bien habitué hein, à la bonne température qu'on retrouve là-bas. Et puis voilà, on soigne les petites blessures, les petits bobos qu'on a pu avoir. Et puis voilà, essayer de retrouver tout de suite du sommeil, c'est important pour que ça soit bien réparateur. Et puis voilà. Être avec vous aussi comme chaque année.
Alors clairement, on a pu le voir hein, sur les différentes vidéos, etc. Et toutes les informations qu'on a pu avoir du Dakar, les températures n'étaient pas si chaudes que ça le matin.
Non, le matin, surtout sur la première partie, elles étaient plutôt froides. Après, la particularité, c'est qu'on part tôt le matin, donc on se levait vers entre 3h30 et 4h. Et puis les départs du bivouac se faisaient entre 5 et 6 heures du matin. Et après, on pouvait prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures des fois de liaison sur la route. Donc là, on roule à entre 110 et 120 km/h. Donc c'est là qu'il vient faire très froid. Donc gros blouson, gants chauffants, on s'équipait. Et puis voilà, mais c'est vrai que pour aller jusqu'au départ de la spéciale, c'était souvent un petit peu compliqué, ouais, il faisait pas chaud.
Ouais, et pressé d'arriver justement sur le départ de cette spéciale pour retrouver un peu de chaleur, on le comprend. Comment s'est déroulé ce Dakar cette année avec un rythme très élevé pour toi ?
Ouais, ça s'est bien passé. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'étais parti sur bien évidemment les mêmes bases que l'année dernière. Et puis dès les premiers jours, on a attaqué en plus dans le sable. Je me suis vraiment... Vraiment bien senti, bien à l'aise. Je m'étais entraîné à Dubaï. J'avais fait 2 courses à Dubaï fin novembre et une début décembre. Donc j'avais du roulage et des sensations qui étaient vraiment très très proches du départ de la course. Et ça s'est vu parce que c'était mon plus beau départ de rallye. Hein. Je suis tout de suite rentré aux alentours de la 50e place. Donc c'était vraiment bien. Et puis, après, premier jour, un petit problème de navigation. Deuxième jour, tout va bien, à part une petite chute, mais on est vraiment, vraiment beaucoup de vitesse. Troisième jour, problème de la petite roue. Bon, mais non, c'était un bon départ. Vraiment, en termes de rythme, de vitesse, je me suis retrouvé avec des pilotes qui, l'année dernière, je ne voyais pas du tout, et des personnes qui était plus forte que moi l'année dernière, qui était derrière. Donc l'entraînement, c'est là qu'on voit que l'entraînement, les progrès se placent bien en termes de classement.
Alors justement, tu nous parles de cette préparation. Bien évidemment, on n'arrive pas au Dakar comme ça, les mains dans les poches. Il y a une énorme préparation en amont. Alors préparation mentale, préparation physique également. Comment ça se déroule pour toi ?
Grosse préparation physique surtout, on a une préparation logistique bien évidemment, trouver les sponsors, choses comme ça, la moto, le camping-car, les engagements, voilà, l'organisation là-bas sur place. Mais c'est surtout la préparation physique qui met énormément de temps et qui est très très long et qui est plutôt dur mentalement, il ne faut pas lâcher. C'est pour ça que je m'entoure à chaque fois de mon coach parce que seul on va moins loin quoi, c'est plus compliqué. Ça a commencé début juin et puis on a relâché un petit peu en août pour les vacances, mais après à partir de septembre on a vraiment mis les bouchées doubles et puis surtout les 2 derniers mois là qui ont été vraiment intenses avec des roulages à Dubaï. Donc, c'était vraiment top.
Alors justement, cette année, il y a eu pas mal de changements également pour toi. Tu as été accompagné une nouvelle fois par ton mécano hein, qui t'accompagne sur cet événement. Mais pas seulement, on a pu voir un dispositif côté vidéo qui était vraiment exceptionnel.
Ah ouais, on avait une super équipe. On avait Dudu, notre chauffeur du camping-car, et on avait bien évidemment Alain à la mécanique qui a super bien bossé. Et puis on avait Vincent Hulin qui est journaliste et qui nous a accompagnés tout au long de ce périple, qui a fait des petites vidéos inside justement, et on espère que ça a plu au plus grand nombre.
Ouais, clairement, ça a plu, hein. Je peux en parler car j'ai suivi toutes ces petites vidéos. On avait l'impression d'être avec vous dans le bivouac à suivre tout ce qui se passait tout au long de la journée, également la journée de repos. Et puis on sentait vraiment que c'était pas joué. On en a parlé au téléphone la semaine dernière. Voilà, il n'y avait pas de jeu. C'était vraiment filmer les instants du quotidien pour vous.
Ouais, c'était vraiment. On est au naturel, hein, dans tous les cas. On a filmé comme si le journaliste n'était pas là, hein. Dans tous les cas, on a rien à cacher, et puis on n'est pas les grandes stars. On va faire le Dakar, on sait ce qu'on a à faire et on le fait, et on se le fait dans la bonne humeur parce qu'on est content d'être là. On a une grande chance de pouvoir participer à cette course, donc voilà, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de temps en termes de visionnage sur France Télévisions, donc le fait qu'on soit là, on a senti quand même un engouement des gens et on a vraiment senti que les gens étaient contents de pouvoir voir des images, de pouvoir nous suivre, de pouvoir voir comment ça se passe de l'intérieur. Donc non, c'est satisfaisant.
Ouais, avec ces petits moments de vie, par exemple, voilà, j'ai vu que ça s'amusait à s'arroser pas mal également du côté du bivouac. On avait pu vivre ces petites scènes. C'était en tout cas très sympathique et sympa de pouvoir partager tout ça avec vous, hein, comme si on faisait partie de l'équipe. Alors on revient sur cette performance, hein, ce Dakar, avec, tu l'as dit rapidement tout à l'heure, pas mal d'événements. Il y a eu ce soleil que tu as pu faire, il y a eu ce problème de roue. Raconte-nous également cet épisode de la roue qui a été explosée, hein, clairement, et tu as réussi à trouver une autre roue.
Oui, une histoire incroyable. J'avais jamais vécu encore de moments comme ça sur le Dakar. Troisième jour, on part pour 470 km de spécial, donc une grosse journée. Hein. On fait 190 km déjà pour arriver au premier fueling. Là, tout allait bien. On était avec un groupe de 4 pilotes. J'étais 4-5 pilotes, même j'étais le quatrième. Il en restait juste un derrière moi. Il y en avait 3 qui étaient devant. Et on repart sur fueling. Ils avaient un meilleur rythme que moi, un petit peu. Je m'accrochais pour rester dans le groupe, pour garder un bon rythme. Et on fait une pause, voilà, donc dans un quart d'heure, on met de l'essence, on mange un petit bout, on réduit le roadbook parce qu'il était vraiment très très grand, donc il fallait mettre le deuxième. On repart et alors est-ce que c'est eux qui ont baissé de rythme ou moi qui ai pris un meilleur rythme? En tout cas, je me sentais bien, je passe vite en tête du groupe. J'ouvre la piste du coup, c'est souvent moi qui... Donc quand on a un petit groupe comme ça, on est plusieurs et c'est souvent le premier qui gère un petit peu plus de navigation, les autres derrière se reposent. Donc je me mets à ouvrir, je navigue, ça se passe bien, on a une bonne vitesse, je me mets même à commencer à partir devant et ça ne me suit pas derrière. Et kilomètre 220, sur un petit sommet en fait, ça fait comme un chemin de 4x4 un petit peu, sur de la piste terre, légèrement sable, pas mal de cailloux. Ça redescendait un petit peu sur la gauche et là en fait un gros trou vraiment c'était vraiment un trou avec des arêtes arrondies mais cassant sur la fin et donc je passe vraiment vite dedans, je devais être à 120-130 et pour moi le trou me paraissait bénin, hein. À la vitesse où j'allais ça allait taper un petit peu de l'arrière mais rien de bien méchant et en fait je passe dedans et ça tape vraiment fort, j'entends un bruit, un très très gros bruit. Et tout de suite, 20 mètres derrière, j'entends que ça se passe pas bien, la chaîne saute. Donc au début, je ne sais pas, hein, que la chaîne saute. Je me suis dit, ça se trouve, ça a pu casser quelque chose au niveau du moteur. Donc je m'arrête tout de suite et là, je comprends l'ampleur des dégâts très rapidement. J'ai au moins plus d'une dizaine de rayons de cassés. Je suis en plein milieu des Ernes, au kilomètre 220. Prochaine pause au kilomètre... on était au 220, 190, ça devait être à 330, quelque chose comme ça.
Ouais, donc tu savais qu'il y avait de la borne encore à faire.
Ouais, ouais, il y avait de la borne à faire. Et là, je passe par là, donc tout de suite, je redescends d'un cran, hein, parce que j'étais dans mon rythme, je roulais, je naviguais, tout allait bien, physiquement j'étais bien, mentalement bien, les sensations étaient bonnes, je me faisais pas peur sur la moto. Et là, je me retrouve avec savoir est-ce que le Dakar s'arrête maintenant ou pas. Donc je décide d'avancer un petit peu, voir ce que ça donne. Je remets ma chaîne. Je fais même pas 10 km. La chaîne ressaute, les rayons se mettent dans la couronne. Enfin, compliqué. Je suis obligé de m'arrêter pour essayer de mécaniquer un petit peu. Essayer d'enlever des rayons, les accrocher les uns entre les autres pour pas qu'ils passent dans la couronne ni dans la chaîne, pour pas la faire sauter. Je repars, je vois que vraiment je vais pas pouvoir aller vite, donc je continue comme ça. Je suis en train d'essayer de trouver une solution, savoir si il n'y avait pas une équipe officielle qui avait laissé une roue dans un camion, que je puisse prendre la roue, mais est-ce qu'ils allaient bien vouloir la laisser? Difficile.
Ouais, là on réfléchit à toutes les possibilités.
Non, vraiment difficile. Et puis 50 mètres plus loin, 50 km plus loin, kilomètre 270. Hein. Le Polonais, malheureusement, qui s'était cassé l'épaule et trois côtes, laisse sa moto, appelle l'hélicoptère, vient le chercher, laisse sa moto sur place et moi j'arrive après ça et. Et voilà, c'est la course, hein. Je prends sa roue, je laisse sa moto, avec ma roue qui est démontée, je repars. Et voilà, déjà, ça, soulagement énorme. Hein. Donc là, je repars vraiment plein d'ambition, en voulant remonter au classement, parce que j'étais rentré en plus dans cette journée-là. J'étais dans les 40, entre 43 et 39, quelque chose comme ça, donc en plus, bonne place. Donc je repars loin, je repars 130 a priori au niveau du classement, et je suis remonté 99 je crois, donc j'ai récupéré 40 places sur la fin. Et puis donc au refueling d'après là, j'en parle justement que j'ai pris la roue de telle personne, de telle moto, et on m'a dit bah oui, il s'est blessé, il est dans le bus là, médical. Du coup, sur mon temps de pause de 15 minutes, là, je décide d'aller le voir pour lui expliquer que j'ai pris sa roue et prendre de ses nouvelles déjà. Et bon, bah, il était pas en forme, il était sous perfusion. Puis en plus, il parlait pas anglais. Donc je lui montre la photo, la vidéo, il comprend tout de suite. Il me tape l'épaule et il me dit, il me disait en gros courage quoi. Donc je repars et voilà, et je termine la journée. Et puis par la suite, je termine mon Dakar. Péripétie incroyable avec toutes les émotions. Le soir, j'étais ultra, ultra fatigué. Vraiment gros coup de barre d'avoir eu de l'adrénaline comme ça en fait pendant un grand moment.
Ascenseur émotionnel,
le soir extrêmement fatigué.
Ouais, j'avoue que là, ça devait être une étape incroyable avec cet ascenseur émotionnel. En plus, ce qui doit être important, c'est de repartir, mais pas vouloir rattraper non plus trop fort et rouler au-dessus de ton rythme. On l'imagine, il faut quand même garder la tête froide et pas repartir à bloc, quoi. On l'imagine.
Ouais, on est reparti. Pourtant, je suis reparti sur un gros rythme parce que je voulais pas. Je savais que j'avais déjà perdu énormément de temps avec cette histoire de roue. Donc, ce qui est perdu est perdu, ça se rattrapera pas, mais ce qui est bon à prendre, il faut le prendre, donc chose que j'ai fait. Et puis, je termine 99 de la journée, mais pas grave, je termine la journée.
Eh ben oui, terminer la journée et terminer ce Dakar. On a des petits coucous un peu partout. Hein. On a Céline qui nous dit quelle belle expérience, ça doit être incroyable ce Dakar. Bravo à vous pour cette participation. Avec cette roue hein, qui a été récupérée. On le voit du côté des réseaux avec cette vidéo que tu as prise justement au moment où tu fais le changement de cette roue. On sent toute cette rage, hein, voilà, cette envie de continuer. Et c'est là où on voit l'ascenseur émotionnel. Hein, parce qu'on l'imagine quelques minutes avant, quelques heures avant. c'était un peu plus compliqué avec la découverte de cette casse sur cette roue. Ce Dakar qui s'est poursuivi, on a eu encore quelques petites frayeurs jusqu'à la fin. Il me semble, raconte-nous, tu as pris une pierre, c'est bien ça, sur le dernier jour ?
Ah ouais, le dernier jour, 40 km de l'arrivée en plus, je pars vraiment sur un bon rythme, je double plein de pilotes. Je me retrouve dans les 40 au classement de la journée, ça roule bien, ça roule vite. Et en fait, il y avait un groupe là de 6-7 pilotes, je les rattrape, je les double. Et au moment de je double le premier de ce groupe-là. Donc j'étais plus dans la poussière, parce que ça va savoir que c'est une moto qui roule à 110-120 dans les chemins. Ça fait de la poussière blanche, de la fumée immense, et obligé de sortir un petit peu de la trace et prendre des risques. Donc en plus, même le dernier jour, j'ai pas peur de prendre ces risques là sortir de la trace, les doubler, et je passe devant, et ça faisait comme un petit sommet en fait. On passait d'un plateau à un autre, et une grosse pierre, et je m'inquiète pas, j'ai roulé dans les pierres pendant 12 jours, c'est vraiment pas inquiet. En fait, je la prends d'une façon que cette pierre-là roule un petit peu sous la moto et remonte, en fait. Et au moment où elle remonte, elle tape dans mon guide chaîne à l'arrière, et ce guide chaîne-là se tord vers l'intérieur. La chaîne passe dedans, en fait, pour bien la guider, pour pas que ça puisse dérailler. Et en fait, bah, comme il est tordu, et bah, ça fait comme un guide qui est plus à sa place, et du coup, en fait, ça fait dérailler la chaîne. Donc là, tout de suite, je m'arrête. Et là, donc, moi, j'avais deux pilotes qui étaient à moi qui me portent assistance tout de suite, qui comprennent vite que c'est pas en fait grand chose, et qu'il y a juste à détordre. Et on se met à trois à tirer sur cette pièce là pour la détordre. Mais sauf que au niveau des pattes métalliques et la dureté et la solidité de la pièce, impossible de même à trois en tirant dessus de la détordre. Donc je décide de démonter ma chaîne. Le fait que ma chaîne est la moitié de la course, parce qu'elle avait été changée à mi-course, elle était un petit peu poncée, aplatie, impossible d'enlever l'attache rapide en fait pour la démonter. Du coup, en fait, j'ai démonté le guide chaîne sur un point de fixation, le D2, il pendait un petit peu vers le bas, et ça retirait la tension de la chaîne un petit peu à sa place, et ça a fait les 40 derniers kilomètres comme ça, et on finit. Mais je suis arrivé un peu agacé, ouais, de 40 km perdre 20 minutes, perdre une place au classement. J'avais un pilote qui était un Espagnol qui était pas très haut là, qui était 13 minutes derrière moi au classement général. Donc le but de ma journée, c'était juste de pas perdre 13 minutes sur
cette place. C'est ça, de maintenir cette place.
2 minutes avant que ça m'arrive, je venais juste de le doubler. Donc ça veut dire qu'il était parti un petit peu en plus, 2-3 minutes devant moi. Donc je venais de lui prendre 2-3 minutes. Donc on était bien. Je terminais 42e de ce Dakar. Bon, voilà. Et non, je perds encore 20-25 minutes avec cette histoire, et voilà. Je perds une place au classement général. C'était mon objectif de la journée, donc je voulais m'y atteler, quoi, et pas possible. Bon, pas grave, je perds une place au classement, mais on termine le Dakar, je passe sur le podium, je récupère une troisième médaille, et voilà, et je suis quand même content de ce résultat.
Et troisième médaille de finisher, hein, c'est pas rien. On le voit, hein, dans ce que tu nous dis, qu'il y a beaucoup d'entraide sur le Dakar. C'est quand même incroyable avec cette compétition qui fait rage. On le voit bien, hein, tous les ans, beaucoup de solidarité entre les pilotes et les différents équipages.
Ouais, il y a une super ambiance. Il y a une entraide, hein, dès qu'il y en a un qui est dans le déboire, on essaie de l'aider. Bon, il y a toujours des pilotes qui le font pas, mais c'est vrai qu'il faut pas hésiter à s'arrêter pour les autres, parce que c'est vrai que quand nous, on est dans le besoin, on est quand même content quand les autres s'arrêtent. Donc c'est important, l'entraide. L'entraide est importante. La course est déjà assez dure, elle est déjà très longue. Les cartes sont redistribuées tous les jours. Donc on le sait que déjà juste finir, on est déjà très content. Donc c'est vrai qu'il y a énormément d'entraide.
Ouais. Ouais, c'est très important sur cette compétition. Tu as pu fêter une nouvelle fois sur cette compétition ton anniversaire. Voilà, tu as pris cette habitude maintenant de fêter ton anniversaire sur le Dakar, c'est plutôt pas mal.
Ouais, c'est rigolo. À chaque fois, j'ai une partie de l'organisation qui était toujours au même refueling en fait, et qui m'attend comme l'année dernière avec un petit gâteau. Donc c'était rigolo. Ça permet de penser un petit peu autre chose là, de de baisser un petit peu l'adrénaline de la course un petit moment. Et non, c'est sympa, c'est rigolo.
Alors en tout cas, un magnifique Dakar, hein. Félicitations à toi pour cette performance qu'on a pu suivre, hein. Bien évidemment sur les ondes de Radio Écho des Choucas, chaque matin on faisait un petit point sur le classement, c'était assez sympa de voir cette évolution chaque jour, de voir également voilà, les petits soucis qui pouvaient arriver, mais ça repartait à chaque fois, hein. On sent le côté compétiteur et battant, et en tout cas félicitations pour cette nouvelle participation. On peut parler quand même de cette année 2022 qui va se poursuivre pour toi, quel est le programme?
2022, ouais, préparation pour le Dakar 2023. On verra ça dans quelques mois. Là, pour l'instant, je me suis donné un peu de repos. On y pense déjà 8 à 10 mois de l'année. Donc, on peut bien passer 2 mois off là pour l'instant. Des sorties normalement, je pense en Sardaigne, en Espagne pour aller s'entraîner. Dubaï, toujours. Hein. J'ai une moto là-bas, donc je retournerai faire des courses et m'entraîner. Et je suis en train de voir, j'ai eu des propositions là pour passer copilote
j'allais y venir
pour passer copilote en buggy, donc d'abord en championnat du monde et pourquoi pas un Dakar. Donc on sait que les motos et les pilotes moto et quad sont des bons navigateurs, parce qu'on apprend vite, hein, le fait de rouler et de naviguer, on prend beaucoup de kilomètres, donc J'ai cette aisance là sur la navigation. Je suis pas le meilleur navigateur du Dakar, mais c'est mon 4e Dakar. J'ai fait un paquet de courses et de rallyes avant, donc je commence à en avoir quelques-unes. Et la navigation, j'ai compris un petit peu les tenants, les aboutissants de ça. Donc pourquoi pas apporter ce plus-là à une équipe qui justement cherche des copilotes, puisqu'il n'y en a pas. Des copilotes qui savent naviguer, c'est difficile. Il n'y en a pas. Pour naviguer, il faut aller faire des rallyes, et puis il faut en faire plusieurs. Ou alors, aller chercher en fait un pilote moto ou un pilote quad et lui faire des propositions. Donc là, on est dedans. Donc on est en train d'étudier ça. Première peut-être course en championnat du monde en Grèce en mai. On est en train de voir ce que ça va donner.
Ah, tu reviens sur Radio Écho des Choucas pour nous donner des informations quand même. Voilà, pour nous dire un peu
ce
programme. Et oui, je voulais y venir justement. On a pu lire dans la presse qu'il y avait des propositions pour que tu deviennes copilote. Donc voilà, j'amenais la question tout doucement pour voir un peu ce qu'il en était. Hein. Voilà, c'est une nouvelle aventure qui pourrait s'ouvrir à toi. Hein. On va suivre ça dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, c'est sûr, on parlait de navigation. C'est quelque chose de très important sur ce type d'événement. Et pour les auditeurs de Radio Écho des Choucas, je vous le dis tout de suite, hein, on oublie complètement le côté GPS au prochain carrefour à gauche. Là, on l'imagine difficilement, mais voilà, on est en plein milieu du désert et il faut trouver le bon chemin, le bon tracé. Moi, clairement, c'est un mystère. Je ne sais pas comment vous faites.
Ouais, mais c'est un mystère pour beaucoup de personnes parce que c'est vrai qu'il faut être sur place pour être en condition en fait pour comprendre le fonctionnement, mais C'est une suite d'images avec des informations et avec des caps. Et en fait, un roadbook, c'est extrêmement précis. Dans sa suite, on a des repères en fait, dans l'espace. Il faut réussir à se repérer dans l'espace suite à cette image-là. Et une fois qu'on a fait les parallèles entre l'image et ce qu'il y a autour de nous, en fait, ça va très bien. Et bon, après, au Dakar, il y a beaucoup de technicité sur les caps, sur une case va faire, par exemple, sur 5 km, on peut avoir 5 ou 6 cases, alors que, par exemple, en championnat du monde, on va être sur un chemin et il y a plein de changements de direction, et sur 1 km, on peut avoir 3 cases. Donc, c'est délicat, mais au Dakar, on a un petit peu plus le temps de naviguer, puisque les cases sont plus espacées qu'en championnat du monde ou au Maroc, par exemple. Mais bon, c'est On y arrive tous et après il y a vraiment le là où on peut tirer son épingle du jeu, c'est le se repérer dans l'espace et tout de suite comprendre qu'on n'est pas sur la bonne trace et retrouver sa trace facilement. Encore cette année, 2 ou 3 fois je me suis perdu, et quand je me suis perdu, quand je me perds, on est toujours c'est toujours un endroit qui est vraiment très difficile, donc il y a beaucoup de monde et par 2 fois j'ai retrouvé le chemin le quasiment le premier, donc non, c'est encourageant. Ouais.
Ah, une très grande complexité, hein, ce L'idée de se retrouver comme ça en plein milieu du désert et devoir s'orienter, voilà, quelque chose de très compliqué. En plus, il y a le pilotage à gérer, hein, pour les pilotes de moto et de quad, où, comme tu nous l'as dit, faut gérer donc le côté navigation et également le pilotage. Donc on voit bien la complexité. En tout cas, un grand merci à toi, hein, Charlie, d'être venu ce matin dans la matinale de Radio Écho des Choucas pour nous raconter cette nouvelle aventure. Et on te souhaite le meilleur pour cette année 2022 et également pour le Dakar 2023.
Eh ben oui, Dakar 2023, peut-être, on va voir ça dans les prochains mois, si on remet la machine en route, pourquoi pas. C'est une belle expérience et qui, en plus, on arrive à le faire partager avec beaucoup de personnes, donc pourquoi pas, oui, retourner. Mais c'est quand même beaucoup, c'est quelque chose, bien évidemment, qu'on fait pas toute notre vie, parce que c'est énormément de sacrifices tout au long de l'année, donc c'est quand même prenant. Peut-être que Sir Sean, ça sera peut-être l'un de mes derniers en moto, je pense, dans les prochaines années.
Ah, peut-être une opportunité, comme tu le disais, et par contre, en tant que copilote, donc ça peut être pas mal.
Passer après de l'autre côté et gérer un petit peu moins de choses et naviguer, pourquoi pas, ouais.
C'est dommage, Sébastien Loeb cherchait un copilote il y a quelques mois, dommage. Voilà, le timing était pas bon. En tout cas, un grand merci à toi. Et on te retrouve, hein, bien sûr, dès que tu as des informations sur Radio Écho des Choucas, ça sera avec grand plaisir.